C'est un pastel. C'est une fillette qui est en train de lire un livre. Elle est brun rousse, elle a un nœud dans les cheveux, elle est assise dans un fauteuil assez rigide. Elle a un corsage bleu, bleu très très clair. Elle est très sérieuse et pensive, un petit peu romantique. Assise devant une fenêtre, on distingue le paysage qui est très flou. Derrière, ça doit être le jardin, puisque c'est dans les couleurs jaune et bleu et vert. Et ça s'appelle Fillette en bleu, vers 1900-1910, pastel sur papier monté sur toile. Mary Cassatt.
Ah oui, ça c'est absolument dans le sujet du temps libre, comme on l'a utilisé. Mm-hmm. Il y a tous les impressionnistes, soit ceux qui ont fait les paysages, ou ceux comme Renoir ou Degas qui ont utilisé les sujets dans la ville. C'est une femme en train d'avoir son tasse de thé, sans doute pendant ses interminables visites sociales. Ils ont passé certains jours chez les amis, tout habillés, avec les gants.
Blancs.
Oui, avec les chapeaux.
Mm-hmm.
Et toujours ses rayures, évidemment, elle aimait beaucoup ça.
Rayures noires, oui, des fauteuils, rayures noires et blanches.
Mm-hmm. Et la femme qui regarde devant elle, entre deux gouttes de thé. Oui, on ne peut pas se tromper la classe sociale ni le temps du 19e siècle.
Et cette gravure de la visiteuse, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, d'une part, une virtuosité technique à cause du contre-jour. Elle utilisait l'aquatinte pour faire un énorme contre-jour. Et aussi, on voit très bien là arriver cette idée de l'instabilité du temps chez les impressionnistes. On a l'habitude de caractériser les impressionnistes surtout par leur goût pour le paysage et le plein air et les effets climatiques. On pense surtout effectivement à Claude Monet, oui, le mouvement, mais on voit plus le mouvement du soleil ou des arbres. On les voit moins comme Degas ou Mary Cassatt, comme peintre d'intérieur, peintre de l'intimité. Mais c'est la même chose. On voit très bien que là, le temps est complètement suspendu, qu'elle a représenté un instant, beaucoup plus qu'une scène. Et ça se traduit par la position très déséquilibrée du personnage central qui est en train de saisir une chaise pour s'asseoir. Et vraiment, le temps s'arrête. C'est un morceau de Marcel Proust, presque, qui est illustré là par ce détail infime d'une femme qui arrive chez vous et qui va simplement s'asseoir. C'est donc une grande banalité. Et en même temps, elle en a fait une scène presque monumentale, avec ce personnage qui est en pied, ce qui est assez difficile, une fenêtre qui occupe presque la totalité de l'arrière-plan avec ce grand contre-jour. Donc c'est une véritable scène d'histoire pour une anecdote complètement banalisée.
Pastel de Lydia dans sa loge. Elle est penchée en avant, les coudes posés sur les genoux. On ne sait pas ce qu'elle regarde, puisqu'elle regarde en dehors du tableau. Il y a derrière elle une glace qui reflète sa coiffure et sa robe jaune. Et ce jaune contraste avec le fauteuil rouge. Tout ça est tout à fait étonnant, avec un éclairage par un immense lustre derrière le fauteuil, comme suspendu juste derrière pour faire un éclairage en contre-jour. Or, elle est éclairée par devant aussi. Et une composition aussi en diagonale, des genoux de la personne jusqu'au lustre. On aura même des toiles de cassate ou des pastels dans lesquelles la composition n'est qu'en diagonale. Ce qui est aussi une...
Elle aime beaucoup la diagonale.
Elle aime beaucoup la diagonale. Elle aime beaucoup aussi des personnages ou des éléments qui sont coupés dans la toile.
Ou décentrés.
Ou complètement décentrés, comme Degas.
Mary Cassatt, 1843-1926. Mary Cassatt naît en 1843 en Pennsylvanie, d'une famille de la haute bourgeoisie financière. Dès son plus jeune âge, elle est sensibilisée aux arts plastiques par des voyages en famille sur le vieux continent. Elle fréquente les musées en France, en Italie, en Espagne. Elle décide de se consacrer à la peinture et séjourne de plus en plus souvent à Paris. Reconnue dès la fin des années 60 par le salon officiel, elle s'installe en France en 1874. Cette année-là, Degas remarque sa peinture et l'invite à participer aux expositions impressionnistes. Si elle expose plusieurs fois avec le groupe, elle ne s'enferme jamais dans un style ni dans une technique. Elle partage le goût de Degas pour le dessin, le pastel et la gravure. Son univers pictural est celui de la femme et des maternités. Si elle s'intéresse aux effets traduits par les peintres de plein air, elle annonce l'univers des nabis à travers des estampes qui s'avèrent d'une grande originalité. Femme d'entre-gens, elle saura faire connaître cette peinture impressionniste à ses amis américains, aidée en cela par la démarche du marchand parisien Durand Ruel, qu'elle poussera à aller exposer en Amérique. Elle est ainsi à l'origine des plus grandes collections américaines, notamment celle des Havemeyer, réunie aujourd'hui au Metropolitan Museum.
Margaret Kiss. Il semble qu'elle était beaucoup touchée par les pastels de La Tour. Et Degas aussi. Il semble que tous les deux ils ont beaucoup apprécié ça. Et elle a recommandé aux jeunes filles qui veulent être artistes. Ils sont manqués un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de petites femmes dilettantes. Hein. Et elle n'a pas beaucoup apprécié ce côté féminin des femmes qui voudraient être artistes sans travailler. Mais elle a dit, par exemple, c'est mieux pour les jeunes femmes qui prétendent être artistes de ne pas être à Paris, où les distractions sont trop nombreuses, mais de s'installer dans un village de Provence où il y a un bon musée avec quelques œuvres et de rester là sans distraction pour étudier. Les mettre comme ça.
Ça, elle l'avait décidé dans sa jeunesse. Elle avait été à l'école de certains maîtres.
Aux États-Unis.
Non, ici en
France. Oh, ici en France. Parce qu'elle a fréquenté quand même une académie de beaux-arts en Pennsylvanie avant de venir ici. Mais elle était bien sûr à Paris, mais elle a quand même voyagé. Elle était en Espagne, en Italie. Et il semble qu'elle ait quand même souffert de la solitude. Elle n'était pas vraiment entourée par ses amis, la famille. Elle a montré assez tôt une indépendance incroyable pour son temps et pour une jeune femme de son niveau social.
Alors on a là le portrait d'une jeune femme habillée de noir. Elle a une robe noire avec une toute petite chose blanche au cou comme un petit nœud ou une petite plume. Une toute petite collerette rose, d'un rose un peu saumon. Le visage de cette jeune femme est tourné sur la droite pour nous, quand on regarde le tableau. Elle a l'air un peu rêveur, elle a une bouche un peu de la même couleur que sa collerette, saumon. Elle a un chapeau noir avec peut-être ce qu'on pourrait... On pourrait penser que c'est un oiseau, quelque chose comme ça, des plumes noires sur le chapeau, mais pas très hautes les plumes, un petit chapeau qui prend bien la tête. Et il y a une très grande impression de douceur dans ce tableau. C'est une jeune femme qui rêve. qui est assez jolie, assez tendre. C'est La jeune femme en noir, 1883, huile sur toile.
Hugues Wilhelm.
Elle était allée s'intéresser aux maîtres flamands et hollandais, et elle avait à ce moment-là été notamment influencée par Frans Hals et Rubens, qu'elle copie.
Ce voyage aux Pays-Bas vient à la suite d'autres voyages d'études en peinture, notamment de l'Italie.
De l'Italie, et là on retrouve effectivement un autre rapprochement avec Degas. Degas, comme Cassatt, ont tous les deux visité l'Italie, et tous les deux étaient profondément influencés. Alors, Cassatt, peut-être plus par le Corrège, qu'elle a été amenée à peindre et à copier. Degas, influencé plus par l'école florentine.
Puis il y aura l'Espagne.
Il y aura l'Espagne, où Cassatt va faire un séjour de plusieurs mois, à Madrid et à Séville. Et on verra un autre rapprochement avec un autre impressionniste. Cassatt, comme Manet, va être très influencé par Velázquez, par certaines compositions et par les noirs de Velázquez.
Qu'est-ce qu'elle retient de cette peinture? Qu'est-ce qui peut la retenir précisément?
Elle va retenir sans doute les couleurs très chatoyantes de la vie de l'Espagne, qu'elle va abandonner quelques années après, mais qui vont la marquer dans ses premières toiles. Des toiles de carnaval d'Espagne, qui justement ont fait ses succès au salon à Paris. Avec la mandoline en 1868, ou un petit peu plus tard avec une autre toile qui est un sujet de carnaval au salon de 1872, qui sera envoyée par elle à sa famille aux États-Unis et qui sera vendue pour $200, ce qui est très intéressant pour elle, parce que c'est une somme qui, à l'époque, n'est pas négligeable. Ça avait un autre avantage aussi, c'était de montrer à sa famille qu'elle pouvait vivre de sa peinture, et que c'était une artiste reconnue puisqu'elle exposait au salon, c'est très important aux États-Unis. Et c'est déjà important puisque précédemment, on revient un petit peu en arrière, mais en 1871, elle était revenue en France avec sa mère au moment des événements français, de la guerre franco-allemande et ensuite de la Commune. Elle avait, par une de ses amies, exposé à New York chez Goupil. Goupil, ce sera ensuite Goupil, Bousseau et Valadon, mais c'est à l'époque l'une des grandes galeries à New York. Et les deux toiles qu'elle présente à New York chez Goupil, elle les expose très peu de temps après à Pittsburgh, où elle est remarquée par l'archevêque catholique de Pittsburgh, qui lui commande justement deux copies de toiles de Corrège pour sa nouvelle cathédrale, qui sont payées $300, ce qui lui permet de financer un séjour en Italie, et d'aller en Italie, et de dire à ses parents qu'elle peut vivre de sa peinture. La toile ensuite est exposée à Chicago, et malheureusement pour Marie Cassatt, les deux toiles vont brûler dans l'incendie de Chicago le 8 octobre 1871.
Son indépendance quand elle dit à ses parents qu'elle désire apprendre la peinture en France, ce qui est très mal pris en fait par son père surtout.
Son père lui dit « J'aimerais presque mieux te voir morte que de faire de la peinture ». Cela dit, il va accepter puisque elle a fait un premier séjour où elle part à la fin de l'année 1865, elle rentrera au milieu des 1870 aux États-Unis et elle va ensuite repartir en Europe en 1872 et elle y restera pratiquement toute sa vie puisque elle refera un voyage à la fin du 19e aux États-Unis. Mais elle sera vraiment une Américaine en France, et elle le dira d'ailleurs à son biographe, elle reste une Américaine. Aujourd'hui, par les collections, elle est essentiellement Américaine parce qu'il y a très peu d'œuvres d'elle en France.
Peut-être que l'on peut regarder cette gravure dans la loge. Michel Melot.
Alors c'est une gravure en noir et blanc. Et Marie Cassatt, comme tous ces graveurs, tous ces peintres graveurs qui venaient de la peinture, avaient une passion pour la technique qu'on appelle l'aquatinte, parce que précisément c'est un peu une technique de peintre, et c'est une technique qui permet d'avoir, comme son nom l'indique, des teintes. Alors qu'une gravure gravée dans le cuivre ne donne ordinairement que des traits. La façon d'avoir des teintes de différentes densités était obtenue par des petits grains de résine que l'on collait sur la plaque de cuivre et qui retenaient l'acide au moment où la planche était mordue, c'est-à-dire creusée par l'acide selon le procédé de l'eau forte. Ensuite, on obtenait donc une trame sur cette plaque de cuivre. Et au lieu d'avoir des traits, on avait des aplats ou des grisés légèrement différents les uns des autres selon que l'on utilisait une résine plus ou moins épaisse ou que l'on mordait dans l'acide plus ou moins la plaque de cuivre. Vous voyez que c'est une technique assez complexe. On a donc un certain nombre de lettres échangées entre Pissarro et Degas qui s'interrogent sur la façon de réussir l'aquatinte. Et à la même époque, ils s'interrogeaient aussi sur la façon de faire des couleurs. Aussi, ils ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu les résultats que Marie Cassatt obtenait, alors qu'elle était novice. Mm-hmm. Dans les toutes premières gravures, elle n'a presque pas hésité. C'est l'une des deux estampes de l'opéra, la loge de l'opéra, montre bien qu'elle avait déjà une grande maîtrise du grain d'aquatinte, qui est difficile à poser, qui se pose en fait dans un moulin. Une boîte, on appelle ça une boîte à grains, c'est une boîte dans laquelle on fait circuler de l'air à l'aide d'une sorte de ventilateur qu'on agite avec une manivelle, si bien que la résine, qui ressemble en fait à une poudre très très fine, plutôt à de la farine ou même à de la poudre de riz, cette petite résine très très fine volette dans la boîte à grains et se dépose tout doucement sur la plaque de cuivre. Ensuite, on chauffe la plaque de cuivre et la résine adhère par de microscopiques petits grains. Et c'est ce grain qui va faire la trame. Alors vous voyez, dans cette gravure, les plages de gris sont très différentes les unes des autres. Il y a une très grande variété. Vous voyez aussi qu'elle a mélangé non seulement des plages d'aquatinte sur le cuivre, mais qu'elle a travaillé avec un pinceau, qu'elle les a triturées, qu'elle les a vraiment manipulées en peintre, de façon picturale, si bien qu'on obtient sur la plaque de cuivre et ensuite sur le papier, sur l'épreuve imprimée, on obtient une véritable œuvre peinte, mais qu'on peut reproduire à quelques exemplaires. Ensuite, elle reprenait à la pointe sèche pour donner les traits, les accents, le visage de la femme, son regard, tout ce qui est plus détaillé. Mais le fond d'aquatinte si varié et si riche fait que ces traits sont noyés dans une atmosphère qui peut représenter le style impressionniste.
C'est au théâtre, une jeune femme en noir, habillée de noir, avec une coiffe noire, regarde avec des jumelles ce qui se passe sur la scène. Le tableau est dans les couleurs ocre. C'est dans un coin, donc c'est un peu comme un plan de cinéma. On voit au même étage qu'elle, puisqu'elle est dans une loge en haut, un homme qui sans doute la regarde, mais les traits sont très très flous. Elle est la seule personne qui est peinte totalement. Tout le reste est complètement flou. Le théâtre et les autres spectateurs. Il y a donc ce monsieur qui la regarde, qui est assis à côté d'une dame qui a sans doute un éventail au programme. À côté, il y a une autre loge où il y a plusieurs personnes. Les visages sont blancs et les gens sont habillés de noir. Et cette jeune femme donc regarde avec des jumelles. Elle est assez jolie, elle a une boucle d'oreille et un éventail fermé dans la main. Dans la loge, 1880. Huile sur toile.
D'abord, elle était déjà établie comme artiste, comme peintre, avant qu'elle était remarquée par Degas. Donc, on ne peut pas dire qu'elle était entièrement formée par Degas, malgré beaucoup de semblances dans la technique, dans le point de vue. Mais quand même, je pense que la rencontre entre les deux, quand même, ça a donné énormément de choses de tous les deux côtés. Ils ont vécu près de l'un et l'autre aussi. C'est pas la place Clichy, c'est entre place Clichy et Anvers, à Paris. Oui. Tous les artistes de tous les côtés, ça veut dire les artistes avec un sens d'invention, plus les artistes plus classiques. Tout le monde était là.
C'est là que se faisaient les rencontres aussi entre impressionnistes, à la Nouvelle Athènes par exemple.
Oui, mais même avant au café Gerbois. Moi je suis passée devant, c'était près de Place Clichy et maintenant il y a un magasin de vêtements là-bas. C'est dommage, on n'a pas conservé même un café. Mais tout le monde était là avant qu'ils aient trouvé ça trop petit. On était là pendant que c'était la période des peintres de Batignolles, avant qu'on les appelait les impressionnistes.
Mais si Marie Cassatt n'allait pas au café, par exemple, de la Nouvelle-Athènes, comme la plupart des femmes, n'y allait pas. Berthe Morisot n'y allait pas non plus.
Non. C'était un repère pour les hommes seulement. Oui. Peut-être il y avait des femmes, mais peut-être les femmes douteuses. Comme on voit parfois dans les tableaux de Degas. Mm-hmm. Enfin, les femmes qui se livrent à l'absinthe ou qui sont là pour attirer une clientèle.
Sorte de contre-jour un petit peu.
En fait, dans la deuxième estampe du même sujet, la femme, toujours la femme dans la loge de l'opéra, il y a un effet de miroir. On a au début, dans les premiers catalogues, on a appelé ça cette estampe « Deux femmes dans une loge ». En fait, il n'y a pas deux femmes, mais c'est un effet de miroir. Et c'est le dos de la femme qui se reflète dans un miroir disposé on ne sait trop où. Et ça, c'est très semblable aussi à ce que faisait Degas, qui adorait faire ce genre de jeu d'optique, d'illusion d'optique, et de faire des compositions encore plus audacieuses que celles-ci, très décentrées, où l'on ne sait plus ce qui est du miroir, ce qui est du reflet, ce qui est du réel. Et ça aussi, c'était tout à fait dans l'esprit des impressionnistes, de cultiver, si l'on peut dire, l'immatériel.
En fait, le miroir, il occupe la partie droite.
Je ne saurais pas trop vous dire où s'arrête. On ne voit pas le début du miroir. Il se peut qu'il soit par ici et que ceci soit le reflet. Mm-hmm. On n'en sait rien exactement, comme dans l'estampe de Degas où il montre des actrices dans la coulisse et où la moitié de l'estampe est coupée par un panneau dont on ne sait pas si elle reflète la réalité, si c'est un panneau miroir qui reflète la réalité ou s'il est vraiment la réalité lui-même. Là, c'est un peu pareil, on ne sait pas trop, le miroir est effacé. C'était une des habitudes des impressionnistes et de leur constante stylistique de se fier aux impressions visuelles et de les détacher de la réalité telle qu'on la connaît en dehors de cette impression visuelle. La réalité n'existe plus en tant que telle, elle n'existe que dans la rétine. Elle devient donc, lorsqu'on voit le résultat, non identifiée. C'est l'abandon complet de l'esthétique académique qui repose sur des connaissances tactiles, essentiellement de relief, de perspective. Vous savez, la perspective, on ne l'apprend pas par l'œil, on l'apprend en marchant, on l'apprend en touchant les objets, en se dirigeant vers eux, en les contournant. Et dans tout l'art classique, les objets ont un volume, on pourrait en faire le tour. Alors que les impressionnistes ont rompu avec cette esthétique-là, et il reste à expliquer de quelle société c'est ce nouveau style et le symbole et le signe, mais c'est en tout cas une société qui peu à peu abandonne l'idée que les objets ont une stabilité, une permanence dans l'espace et dans le temps. Donc tout coule et les objets se confondent avec leur ombre ou avec leur reflet. Alors les estampes de Marie Cassatt en sont l'illustration parfaite.
Elle a été très vite intéressée. On discute si c'est en 1873 ou en 1875. Elle avait vu des tableaux de Degas à la devanture d'un marchand, boulevard Haussmann, et elle raconte dans une lettre à sa mère qu'elle allait, dit-elle, se coller la figure contre la vitrine pour voir ces tableaux qui ont bouleversé et changé sa vie. Mais elle ne connaîtra Degas qu'un peu plus tard, sans doute en 1877.
Et elle reconnaîtra dans ses peintures la peinture moderne. Et Degas comme la peinture de Degas comme une peinture et à la fois classique et très savante.
Classique, très savante, très moderne par la conception, par la mise en page, très moderne par les couleurs et par les thèmes aussi qui sont traités. Tout à fait contraire des pompiers et tout à fait contraire de la peinture classique.
Qu'est-ce qu'elle a pu voir dans cette vitrine, par exemple ?
Elle a pu voir sans doute des baigneuses, sans doute des scènes de course, mais avec des perspectives, avec des mises en page, avec des couleurs qui étaient tout à fait contraires de celles que l'on voyait. Degas avait banni les couleurs foncées et sombres, mais il avait aussi des couleurs foncées et sombres, mais il n'y avait pas le bitumeux qu'on trouvait chez ce qu'on a appelé ensuite les pompiers. Et puis une mise en page, un cadrage très spécifique que Cassatt sera peut-être la seule des impressionnistes d'avoir aussi proche de celui de Degas.
Cassatt précisément présente des œuvres au salon officiel. Elle ne connaît pas encore Degas, mais Degas, qui fréquente avec son ami Tourny le salon officiel, va remarquer ses œuvres.
Alors en fait, c'est probable que c'est plutôt Tourny qui a dû dire à Degas « Venez voir une toile de quelqu'un que je connais ». Et c'est comme ça qu'effectivement Degas a été mis en face d'une toile de Marie Cassatt et qu'il apprécie cette toile et il dit qu'il y a quelqu'un qui sent comme moi. Ce qui est quand même un hommage tout à fait extraordinaire de Degas à Marie Cassatt. Le mot sera rapporté à Marie Cassatt, mais ce n'est qu'en 77 qu'il y aura vraiment des liens d'amitié très forts entre les deux. En 1877, il invite Marie Cassatt, dont l'envoi a été refusé au salon, à exposer avec les impressionnistes. Et elle le dira à Segar, son biographe, c'est à ce moment-là que Degas m'engagea à ne plus envoyer au salon. Ils avaient pris l'engagement en 77 à ne pas soumettre de toile au salon, mais à exposer avec ses amis dans le groupe des impressionnistes. Et elle dit « J'acceptais avec joie, enfin je pouvais travailler avec une indépendance absolue sans m'occuper de l'opinion éventuelle d'un jury. Déjà, j'avais reconnu quels étaient mes véritables maîtres. J'admirais Manet, Courbet et Degas. Je haïssais l'art conventionnel. Je commençais à vivre. » Donc en 78, elle présente justement cette petite fille dans un fauteuil bleu qui est refusée. Elle le dira en 1903 dans une lettre à Vollard. À l'époque, l'œuvre semblait nouvelle. Et elle a tout à fait raison de dire que l'œuvre semblait nouvelle. Parce que quand on regarde le tableau, la petite fille est assise. En fait, elle est vautrée sur le fauteuil, ce qui déjà, par rapport à une peinture un peu académique, est une position un peu négligée. Ensuite, le fauteuil n'occupe que la partie droite du tableau. À gauche, il y a un autre fauteuil bleu dans lequel il n'y a pas de personne. Il y a un petit chien. Donc, une toile qui a une forte présence par une petite fille avec une robe blanc très lumineuse, dont le blanc est atténué par un châle écossais. Et autre chose tout à fait étrange, avec une composition presque en langage, puisqu'il y a dans le fond deux autres fauteuils bleus, plus exactement un fauteuil et un canapé. Donc ce tableau, les trois quarts du tableau sont occupés par quatre fauteuils.
Et un grand vide.
Et un grand vide. Et au premier plan, donc, cet éclairage et cette luminosité de la robe de la petite fille, et à l'arrière-plan, deux fenêtres qui vont donner un contre-jour et une profondeur à la toile.
Ah, j'adore ça.
Oui.
La petite fille... avec sa robe
blanche et
en désarroi, on dit, disarranged, avec ses jambes écartées, avec une main derrière la tête. Elle a une pose d'un enfant d'aujourd'hui qui regarde avec intensité la télé. Mais il n'y a pas de télé là-dedans, il y a un petit chat.
Une pose relâchée complètement.
Oui, relâchée.
La robe en désordre.
Oui, en désordre. Mmh. Mais une composition de canapé et de chaise, c'est vraiment enchantant.
Et c'est très audacieux pour l'époque.
Oui, assez audacieux, on pourrait dire. C'est... Si ce n'était pas une femme, une vieille fille qui a fait ça, on peut se poser les questions. Hein. Mais c'est un enfant qui ne regarde pas du tout le peintre, qui est absorbé par quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, par exemple, là, je trouve que c'est mal fait. Hein.
Son père qu'elle représente à cheval. Hein.
Oui, mais oui. C'est vraiment raté pour moi, le cheval, le monsieur. Et même la technique, un peu. Elle a fait ça quand même en 85. Mais regardez-moi ça. Je ne sais pas pourquoi c'est mal fait.
Hein. Oui. Très rigide. Hein.
Oui, c'est rigide et c'est faux aussi.
Oui.
Et son père de dos. Et pourtant, elle a réussi certaines dos.
Oui, hein. 85, c'est sa grande période. C'est sa meilleure période en peinture. Mmh.
Mais là, c'est autre chose.
La femme cousin, Musée d'Orsay.
Marly-le-Roi.
Marly-le-Roi, c'était sa résidence d'été dans les années 80, où toute sa famille s'est retrouvée avec les frères.
Et est-ce que c'était là sa sœur était morte?
Sa sœur est morte après, en 82.
Mais pas à Marly-le-Roi.
Non. Mais c'est peut-être là que lui est venue l'inspiration de ses sujets principaux, représenter les enfants qu'elle a si admirablement fait.
Mais il semble qu'il y avait une suggestion faite par Degas qu'elle s'occupe de maternité.
C'est lui qui l'aurait poussé à faire des maternités.
D'après que quelque chose chez lui de quelque part. Et je trouve ça drôle quand même. Moi, je vois les deux comme deux vieilles filles, tous les deux sans enfants. Un peu misogynes, pas misogynes, mais misanthropes dans une certaine façon à dire. Mais quand même, le sujet humain, tendre. Il y a beaucoup
une affection quand même qui passait entre eux.
Entre Degas et Mary Cassatt.
Oui.
J'espère. J'espère pour les deux. Mais je pense qu'il ne se montrait pas cette affection. Je pense qu'il était attiré dans un sens, l'un et l'autre. Et je me demande si, dans leur tête, ils n'ont pas pensé qu'il y avait une possibilité de fonder un couple à la base des intérêts en commun. Mais je pense que tous les deux étaient fiers et avaient un certain niveau social qui fait qu'une certaine rigidité dans leur relation. Parce qu'on voit les peintres de ce jour-là, ils étaient toujours en liaison avec les modèles, les femmes de situation modeste. Et Degas, il était trop un gentleman. Et je crois aussi qu'il était un peu timide de côté de sa physique, j'ai l'impression. Il a utilisé beaucoup comme arme son esprit acide. Et Mary Cassatt, de son côté aussi, elle n'était pas vraiment la plus belle femme du monde. Il y en a qui disent qu'elle n'a jamais eu des petites amies. Mm-hmm. Ah oui, il y a tout le monde qui pose la question au sujet de Mary Cassatt et Degas, mais à mon avis, il était trop la même chose.
C'était trop pareil.
Oui, dans beaucoup de domaines. Et tous les deux fiers, tous les deux un peu durs à l'extérieur, tous les deux...
Exigeants envers eux-mêmes.
Oui, très exigeants, très travailleurs, très dévoués à son art. Ils n'étaient pas du tout les dilettantes. C'était les travailleurs.
Et Degas ressentait Mary Cassatt un peu comme son âme sœur, comme son alter ego. Il l'appelait son confrère.
Oui, sans doute. Et même, il y avait des mauvais esprits qui ont dit à un moment donné que voilà, Degas et son acolyte, mais masculin, on dit.
Ah oui?
Choir boy. Donc, de tous les deux, ils ont sans doute souffert un peu le regard des autres dans le sens qu'il n'était pas entièrement homme pas entièrement femme, dans la manière acceptée, hein. Je crois.
Ils ont les mêmes goûts et une même culture. Ils sont tous les deux très, très cultivés. Il y a le même attrait pour l'Italie. Il y a le même attrait pour le dessin, pour le pastel. La technique du pastel de Degas et celle de Cassatt. Il y aura aussi la même passion pour la gravure. Cassatt a réalisé plus de 250 gravures et aquatintes. À part Degas et Pissarro, aucun impressionniste n'a gravé autant qu'elle.
Degas avait commencé alors une série de monotypes qu'il destinait sans doute à la photogravure pour illustrer les nouvelles de son ami Halévy sur la famille cardinale. Et elle a pu voir ça, puisque Madame Havemeyer en a acquis, donc il est possible qu'elle les ait vues. Elle a sans doute vu des pastels, puisque Degas était un grand pastelliste. Et on sait en tout cas que ça l'a enthousiasmée et qu'elle s'est mise à la gravure peu après, sollicitée d'ailleurs par Degas, qui a dû voir en elle une artiste prometteuse dans ce domaine. Et quand l'équipe, la petite équipe que formait Degas, Pissarro, un peu également Raffaelli, qui commençait à s'agréger au groupe, qui était lui aussi graveur, quand ils ont eu l'idée de lancer une revue ou un album d'estampes, une affaire assez mystérieuse puisqu'elle n'a jamais finalement vu le jour, ils ont fait appel à Marie Cassatt pour collaborer à cet album qui aurait dû s'appeler « Le jour et la nuit » et qui aurait dû également paraître en 1880.
Il n'y a même pas eu de numéro zéro.
Non, aucun. Ils n'ont pas parvenu jusqu'à la publication, mais certaines planches ont été faites. On est certain, en tout cas, que celle de Pissarro existe bien, puisqu'il l'a montrée en 1881, l'année d'après, à l'exposition impressionniste. Mmh. C'était la cinquième. Et dans le catalogue, la gravure de Pissarro, sur Pontoise, apparaît comme... gravure faite pour le jour et la nuit. Degas est censé avoir fait justement la célèbre gravure de Marie Cassatt au Louvre, qui la représente avec sa sœur en train de visiter la galerie des peintures. Il y a deux gravures de ce type, une autre avec les sculptures étrusques. Donc on connaît la gravure de Degas pour le jour et la nuit, on connaît celle de Pissarro, on connaît celle de Raffaelli aussi, qui était le chiffonnier éreinté. Bref, on ne sait pas exactement celle que Marie Cassatt réservait à cet album, mais on pense que c'était dans la loge, à l'opéra, qui représente une femme avec un éventail devant un miroir, dans une loge. Mais toute cette entreprise en est restée là et n'a jamais été éditée réellement.
Alors là, c'est en plein air. Il y a deux jeunes femmes avec des chignons bas sur la nuque. Il y en a une qui est en haut d'une échelle et qui cueille visiblement des poires. Alors elle a une robe bleu-vert. Les couleurs sont très claires, très douces. La jeune femme qui est en bas et qui tient un enfant tout nu dans les bras, elle a une robe rose avec deux toutes petites feuilles vertes, mais tout ça est très pâle, très, très léger. Et c'est un poirier en espalier, c'est-à-dire qu'il est appuyé contre un mur de pierre. Au-dessus, on voit le ciel bleu. Et puis, on dirait une perspective comme ça, à droite de la jeune femme qui est par terre, comme s'il y avait une porte et que l'on aperçoive un autre jardin, quelque chose de plus ordonnancé, peut-être de plus à la française, vert aussi, mais tout est très doux et ça fait très soleil, plein soleil d'été. C'est l'espalier vers 1893, pointe sèche, eau forte et aquatinte.
Marie Cassatt était peintre, entièrement peintre, et n'avait sans doute aux États-Unis, où elle est née, pas du tout eu l'idée de faire de la gravure, bien que son professeur ait été quand même un graveur. Elle est arrivée en France comme peintre. Et c'est en voyant les gravures de Degas qu'elle a vu la combinaison des deux arts, et je crois que c'est en 1875, elle était avec Madame Eve Meyer, qui était une grande collectionneuse américaine, qui a été la première cliente des gravures de Degas. Degas ne vendait pas ses gravures. Les stamps étaient très difficiles à vendre encore à l'époque, toujours assimilés à un produit de l'industrie et assez. Les amateurs se montraient méfiants vis-à-vis de l'estampe. Il fallait convaincre les amateurs que l'estampe pouvait être aussi une œuvre rare, une œuvre de collection. Les Américains, ça c'est, je crois, fondamental pour comprendre pourquoi Marie Cassatt s'est tellement bien adaptée à la gravure. Les Américains n'avaient pas ces préventions qui, en France ou en Europe, remontaient sans doute à une tradition très longue des connaisseurs et des amateurs d'art, pour qui l'estampe était un objet d'accès à l'œuvre d'art, mais pas une œuvre d'art elle-même. Aux États-Unis, je pense qu'il n'y avait pas cette tradition-là. La preuve en est que les grands collectionneurs d'estampes ont été d'emblée des Américains dans les années 1880, qui se sont même auparavant, qui s'intéressaient aux gravures de Millet, de Corot, alors que les Français s'y intéressaient guère. Marie Cassatt est donc arrivée des États-Unis avec un œil neuf et surtout un esprit qui était débarrassé de ses préjugés, alors que les impressionnistes français souffraient certainement de ces préjugés-là. Donc elle a pu apprécier tout de suite les prouesses de Degas. Ce qui lui a plu, c'est sans doute la prouesse technique. Degas était un acharné de la technique. Il harcelait ses planches, gravait, grattait, refaisait. Il n'était jamais content de lui, il n'aboutissait jamais. La plupart de ses gravures n'ont pas connu finalement d'achèvement réel. Et tout ça, je crois, lui a plu, parce qu'elle-même était, l'avenir l'a montré, une très grande technicienne. Pour arriver à faire des estampes aussi parfaites que celles qu'elle a faites, il fallait vraiment, je pense, une patience d'ange d'abord, et puis une virtuosité manuelle et technique extraordinaire, parce que c'est, on dirait, de la dentelle, c'est la façon dont elle a procédé.
Alors là, c'est une jeune femme qui est à son secrétaire, qui est en train de cacheter une enveloppe d'une lettre qu'elle va sans doute envoyer. Elle est habillée de bleu. Le secrétaire aussi, l'endroit où l'on écrit est bleu, du même bleu que sa robe. Et sa robe est chamarrée, il y a des dessins beige, très jolis. Elle a un corsage rose pâle. Il y a au mur du papier peint qui reprend les motifs de la robe de la jeune femme. Mais le papier peint, lui, est blanc cassé. Les motifs sont verts, très pâles. Le tout est dans des couleurs à la limite du pastel. La jeune femme est peut-être même une jeune fille. Elle est coiffée, les cheveux tirés en arrière. Elle est brune, les sourcils bruns assez épais. Ses mains sont très dessinées. Le tout est très dessiné et elle a l'air triste ou émue. C'est une ambiance un petit peu nostalgique. Elle est assise dans un fauteuil dont on ne voit que le dossier. La lettre, 1891, pointe sèche, eau forte et aquatinte.
J'ai été, dit-elle, sur le point une demi-douzaine de fois de demander à Degas de venir voir mon travail. Mais s'il était mal disposé, il me démolirait si complètement que je ne pourrais m'en remettre à temps pour le finir pour l'exposition. Pourtant, c'est le seul homme que je connaisse dont l'opinion pourrait m'être utile. Elle allait visiter des expositions, elle allait au théâtre avec Degas et au musée. Donc, devant une toile, Marie Cassatt, jugeant une toile d'un de leurs amis, déclare qu'il n'a pas de style. Et Degas rit, hausse les épaules, disant implicitement qu'une femme ne peut pas juger ou qu'une femme ne peut pas avoir de style. Elle est piquée, elle a dû peut-être se brouiller pendant quelques semaines avec Degas, et sa réponse va être un tableau qui est un de ses chefs-d'œuvre, qui est le portrait d'une jeune fille, d'ailleurs presque laide. C'était peut-être sans doute une des bonnes de Marie Cassatt, qui fait sa toilette matinale devant une coiffeuse et qui se prépare les cheveux en ayant un geste où elle a plus l'air de s'étirer que de préparer sa tresse. Mais malgré cela, le tableau est extraordinaire de présence, d'atmosphère, alors que le modèle n'est pas beau, ce qui est très fréquent chez Degas aussi, ce qui est au contraire assez rare chez Cassatt. Cassatt choisit des modèles plutôt jolis et agréables. Donc là, elle se prend au jeu de Degas en montrant que même avec les modèles que choisit Degas, elle peut réaliser un chef-d'œuvre.
Avec cette robe blanche tout à fait éblouissante.
Et une pose complètement déhanchée et avec un coude levé, je vous dis, on a l'impression qu'elle s'étire, qu'elle bâille et pas du tout qu'elle prépare sa tresse. Et pourtant, le tableau ne choque pas du tout. Or, la position est tout sauf naturelle. Degas trouve la toile, on pourrait dire, sublime, et il a ce mot « quel dessin, quel style ». C'est l'hommage que Cassatt attendait, et justement, pour prouver combien elle était sensible à cet hommage, elle va donner la toile à Degas, qui va l'accrocher bien en évidence dans son salon, et qui en échange va donner à Marie Cassatt un des nus exposé en 1886 à la 8e exposition impressionniste.
Voyons là une femme qui porte un enfant sur son bras. Et oui, mais... la seule audace, c'est que l'enfant est vu de dos, au premier plan, et que la femme qui le porte disparaît derrière l'enfant, et on ne voit que la moitié, le quart de son visage. Oui. Mais ce qui accentue cet effet un peu curieux, c'est la façon qu'elle a eue d'utiliser la pointe sèche pour accentuer certains contours uniquement, mais pas tous. Donc on a toute une partie des personnages qui disparaissent dans le fond d'encre, qui sont à peine esquissés, et au contraire, deux ou trois traits seulement, le contour extérieur du corps de l'enfant nu, qui sont soulignés avec de très très légères petites ombres, mm-hmm. qui viennent là encore en mystériser la gravure. Donc je ne pense pas que... Là, on revient à un contour un peu académique, je pense que c'était aussi l'évolution de sa peinture et de la peinture impressionniste en général. On est là très proche de Renoir ou de Berthe Morisot, par exemple, qui étaient beaucoup plus académiques dans leur composition que ne l'était Degas, qui lui était, lui, franchement audacieux. Et c'est dû aussi à l'évolution, enfin, on n'est plus à la même époque que dans les toutes premières gravures de 1879, mais une époque où l'art... C'est un peu assagi et revenu à des valeurs plus traditionnelles, certainement, qui ont fait le succès à la fois de certaines gravures, mais aussi le succès de Renoir ou de Berthe Morisot, dont les estampes à la pointe sèche, très proches de celles-ci, sont également contemporaines, c'est-à-dire tardives. Pas de la première époque impressionniste, mais au contraire d'une époque... On peut dire qu'à partir de 1885, une grande partie de l'impressionnisme a évolué vers un art plus décoratif. Ça se voit dans le goût des couleurs, mais aussi dans les thèmes. Donc on voit bien que l'ensemble de l'art, entraîné par le marché qui s'est développé, par le développement des arts décoratifs, le développement des journaux d'art, des objets d'art. Cette évolution vers l'art décoratif a été d'abord très marquée par les néo-impressionnistes, par les jeunes, la jeune génération, mais aussi par Gauguin, par exemple, qui se lançait à la même époque, à la fois dans la tapisserie, la céramique, etc. C'est un peu toute cette évolution que l'on voit dans la gravure de Marie Cassatt, entre ses premières gravures austères, en aquatinte, en noir et blanc, et avec des compositions parfois audacieuses, vers cet art beaucoup plus serein, qui va aboutir dans ces 10 planches en couleur qui ont fait sa célébrité ensuite, dont la composition, le style, sont quand même finalement beaucoup plus académiques.
Sa peinture, vous la sentez complètement impressionniste?
Non. Parce que comme Degas, le dessin et la forme, la composition, étaient beaucoup plus importants, la forme solide, que chez les impressionnistes classiques comme Monet. Elle avait quand même une touche très très libre, appréciée par les impressionnistes. Mais elle avait quand même les trois dimensions. Elle avait quand même une forme solide.
Oui. Oui, c'est ce qui frappe, mm-hmm. cette solidité, justement.
Oui.
La façon de poser ces personnages, beaucoup de personnages au premier plan, mm-hmm. De trois quarts.
Mais là, par exemple, dans la jeune femme, la femme cousin, mm-hmm. on voit cette point de vue japonaise de, en haut, mm-hmm. qui regarde le fond.
Plongée, oui.
On voit une diagonale.
L'allée du
derrière la femme qui est très concentrée sur son œuvre dans les mains.
Et c'est presque un portrait aussi qu'elle fait.
Oui, là, je peux dire que c'est un portrait. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas une chose faite vague du tout. Hein.
Mm-hmm. Et la touche est quand même très large. Hein.
Mm-hmm. Rapide.
Rapide. Elle a aimé beaucoup représenter sa sœur Lydia, par exemple.
Oui.
À la lumière naturelle, en plein air.
Oui, et il semble que c'était, je pense que c'était Manet qui a fait l'influence, qu'elle a placé les personnages dans le plein air. Oui, ça c'est Lydia, avec sa tapisserie. Une femme au travail, ça c'est plutôt traditionnel, je veux dire.
Vous voulez dire classique?
Pour classique, parce que quand Degas a fait ces femmes en train de travailler, semble qu'il ait choisi exprès les positions les plus insolites. Et là, c'est assez classique par rapport à ça.
Et quand même, sa façon de poser les couleurs, de brosser comme ça, très rapidement, la robe. Mm-hmm. C'est très, très impressionniste quand même.
Ah oui, absolument.
Mais là, on a une vibration un peu quand même de la lumière sur cette robe. Quelque chose
oui,
de
je
fugace.
Vois dans les blancs et dans les blancs cassés.
Assez opaque. Hein. Mm-hmm. On n'a pas la transparence, par exemple, les jeux de transparence de Berthe Morisot. Mm-hmm.
C'est vrai, même là, dans les dentelles.
De la manche.
Qui doit être transparente, ça se voit trop. Hein. Pas trop. Moi, je vois quand même dans cette image de sa sœur Lydia.
Dans la loge, oui, à l'opéra.
Dans la loge à l'opéra, encore
le
temps libre.
La lumière électrique.
Je vois quand même une certaine sorte de visage américain, vous voyez pas? Un sourire avec les dents qui se montrent là, assez mm-hmm. franches. Ou franches. Mm-hmm. Ça, c'est le sujet souvent utilisé par Degas et aussi par Manet, mais les couleurs sont là un peu plus...
Acide.
Oui.
Soufré. Mm-hmm.
Alors, ça a été la grande émotion des beaucoup de peintres, pas seulement Marie Cassatt, devant une exposition qui avait été organisée en 1890 d'estampes japonaises.
À l'École des Beaux-Arts.
À l'École des Beaux-Arts, très grande exposition. Alors, le japonisme n'était pas une nouveauté en 1890. Les érudits se battent beaucoup pour savoir quand le japonisme a été introduit en France, mais certainement, en tout cas, dès le Second Empire. L'art japonais répondait à un certain nombre d'exigences, de désirs que les peintres nouveaux avaient. précisément pour quitter cette esthétique de la Renaissance qu'il jugeait pesante et un peu trop solidifiée, un peu trop dure. Les Japonais offraient une alternative intéressante en niant la perspective, en mettant de grands aplats, en utilisant des couleurs extrêmement légères et très décoratives, et en jouant beaucoup sur les arabesques, beaucoup plus que sur des traits trop géométriques qui étaient inspirés par l'art classique. Quand la grande exposition des Beaux-Arts est organisée, c'est donc plus la consécration de la mode japonaise qu'une découverte. Mais pour Marie Cassatt, c'est quand même une découverte. On le sait par une lettre qu'elle a écrite à son amie Berthe Morisot. Les deux femmes du mouvement impressionniste qui l'ont beaucoup marquée et qui étaient évidemment amies. Elle a écrit à Berthe Morisot en lui disant « Il faut absolument... » Enfin, ce n'est pas écrit comme ça, mais aujourd'hui, on aurait dit « Il faut absolument que tu ailles voir. » Ne manque pas l'exposition des Japonais. C'est absolument merveilleux. Et dès cette époque, Marie Cassatt n'a eu qu'une idée en tête, c'est de faire des estampes comme les Japonais, mais avec les moyens qu'elle connaissait, c'est-à-dire l'aquatinte et l'encre d'imprimerie, l'eau forte et l'encre d'imprimerie. Si bien que Marie Cassatt n'a pas été la seule à vouloir faire de la couleur, mais elle a été la seule, certainement, à réussir une œuvre réellement japonisante. On le voit très bien sur cette estampe, la première de la série des 10 qu'elle a imprimée à l'époque, où l'on voit d'ailleurs que dans l'influence japonaise dans le dessin du bambin, encore un petit enfant nu que sa mère est en train de baigner, et les contours de l'enfant avec... des fausses perspectives, puisqu'on le voit à la fois de profil et de trois quarts, un visage qui est presque un visage japonisant avec ses grosses joues et ses yeux fermés. Tout cela est complètement inspiré du Japon. Elle ne s'en est pas du tout cachée. Quand elle a exposé cette série de gravures, elle a dit que c'était un album à l'imitation des Japonais.
Laquelle voulez-vous ? Celle-là, par exemple. La femme qui se lave à la cuvette.
Oui, c'est une femme en voie de dos qui est torse nu avec une sorte de grande serviette dans le bas, avec les rainures.
Qui ressemble à des sujets proches de Degas, de femmes au bain.
Pour moi, c'est plutôt une estampe japonaise. Oui, il faut dire le sujet, la femme qui se lave, souvent fait pas de gars. Mais la façon de représenter, moi je dirais d'abord japonais, avant de gars. Mais quand même c'est une chose que de gars lui-même a dit, que je peux pas croire que c'est possible pour une femme de dessiner aussi bien que ça. Comme on voit une femme de dos, et le dos déjà c'est un sujet difficile à montrer. Parce que le parti intéressant du corps humain, c'est quand même l'autre côté. Et elle a quand même réussi, simplement avec les lignes, de donner une impression de modeler à cette image-là. Mais on voit qu'il y a certaines couleurs. Elle a dû faire le parti en couleur avec le parti aquatinte pour attraper le couleur. Sinon, c'est trop lisse. Donc, on voit le parti blanc. C'est la couleur du papier.
Et tous les rayures rosées, beige et les verts jaunes un peu.
Il y a aussi certaines parties, on voit simplement les traits du dessin. Et elle a fait le dessin en deux façons. Il semble qu'elle a utilisé le point sèche, qui est très difficile d'après moi. C'est comme pour faire une image sur le métal qui est résistant, quand même une matière résistante. On utilisait un pic à glace, une chose dure, une aiguille, mais il faut contrôler avec la force des mains de faire de graver comme ça. Très, très difficile.
Une maternité. Alors ça, c'est le petit déjeuner au lit, 1897, huile sur toile. C'est une maman, visiblement, avec un enfant. Alors la toile, comme ça, est blanche et rose, pratiquement. Il y a un peu de gris. La maman est couchée, elle a la tête sur l'oreiller.
les cheveux roulés, sans doute pour la nuit un peu. Elle a une bouche très présente, un peu bien rose, une bouche encore tout ensommeillée. Et un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon, je ne saurais pas trop dire, qui a des cheveux un peu longs, bouclés. Il est tout rose aussi, l'enfant, avec juste une petite chemise, les fesses nues, les petits pieds croisés. Et il mange quelque chose. Et puis à côté donc du lit, alors il y a ses oreillers blancs, ses draps blancs, la chemise de la maman est blanche, la chemise de l'enfant aussi. Et puis à côté, il y a une petite table de chevet sur laquelle est posée une tasse blanche, porcelaine blanche, tout est blanc. Et il y a cette table de chevet qui est simplement grise avec une toute petite touche d'orange. C'est pratiquement la seule tache de couleur du tableau qui rappellerait un petit peu la couleur des cheveux de l'enfant et peut-être un peu ceux de la maman. Voilà, le petit déjeuner au lit. Le petit déjeuner au lit, huile sur toile, 1897.
Vous imaginez un peu sa vie à Beaufrène, ce que ça pouvait être à la fin de ce siècle?
Elle a fait comme une femme de sa classe, ça veut dire qu'elle avait beaucoup de servantes. Elle a fait une bonne table, elle a reçu du monde, elle a écrit beaucoup de lettres, elle a soutenu une grande correspondance. Mais quand même, ça c'est la vie d'une femme de sa classe. Elle était habillée toujours correctement par la maison Worth, avec les grands chapeaux. Mais après, c'est fini, parce que c'était une femme qui a travaillé. On le dit comme un homme, parce que les femmes de cette classe ne travaillaient pas. Elle avait vécu comme une vie assez aisée, mais elle a insisté de travailler tout le temps. Elle faisait la peinture toute la journée. Semble que c'était le matin. Elle a fait poser les petites filles ou les femmes avec les enfants qu'elle a choisis parmi la population du coin.
Rural, oui.
Rural.
Les bonnes paysannes.
Les paysannes, mais là, à Beaufrène, Thierry Mirabus, il y avait une fabrique de boutons. Il semble que toutes les jeunes filles qui ne faisaient pas servante, qui n'étaient pas mariées, allaient travailler chez la fabrique de boutons. Et donc, elle a choisi quelques-unes quand même de les sauver de cette vie-là. Mais il est vrai que les femmes à cette époque n'avaient pas beaucoup de choix. Mm-hmm. Et elle avait certains modèles préférés qu'elle a fait poser encore et encore. Et pas toujours, on voit un mère et enfant, mais ils ne sont pas toujours vraiment mère et enfant. Elle a préféré de faire poser les enfants de moins de 3 ans, parce que pour elle, les bébés, ils posaient tout seuls. Mais après l'âge de 3 ans, ils commencent à être difficiles. Elle n'aimait pas trop les enfants plus âgés. Donc, elle les fait poser le matin. Elle a fait les promenades avec eux dans l'après-midi. Et le soir, elle est travaillée par nuit dans son atelier de coiffure. Mm-hmm. Donc, elle est quand même beaucoup, beaucoup travaillée. Elle était dure avec elle-même.
C'est une jeune mère avec son enfant. Elle est assise dans sa chambre devant le miroir de sa toilette. Elle est blonde, son enfant est blond aussi. Elle a les cheveux relevés. Elle est très charnelle, très sensuelle. Son petit enfant est dans ses bras. Il est debout sur ses genoux. Elle lui tient la main droite dans sa main droite. Et c'est un petit garçon. Il est nu. Il a les cheveux blonds mi-longs. Il est très pensif. Elle a un regard en elle. Elle regarde comme en elle. Ou alors vraiment à l'extérieur, peut-être par la fenêtre. Elle est habillée dans une chemise qui est blanche avec des ornements bleus sur les épaules. Et le tout avec un petit peu de dentelle. Et ça respire une grande douceur et une grande sensualité. Mère et enfant, 1901, huile sur toile.
Les maternités qu'elle a faites sont très, très naturelles. Ils sont pas comme ils sont posés pour être charmantes ou touchantes. Rien de fait avec sentimental, ils sont vrais. Ils sont vrais dans tous les sens. Les modèles, le bébé et les mères sont pas une femme ou un bébé forcément beau, avec beaucoup de beauté. Il y en a qui sont simplement naturels, dans les poses, dans les gestes. Et ils sont faits avec une exécution, une touche très libre. Mais ça, c'est le parti artistique.
Et vous me disiez tout à l'heure qu'elle avait bien rendu, par exemple, le modelé des visages des enfants. Et ce n'est pas du tout
c'est
évident.
Ce n'est pas du tout évident pour un artiste de faire un portrait d'un bébé. Parce qu'un bébé, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas encore. Ça ressemble
à une boule de chair informe.
C'est ça. Sans caractère, sans ossature. Ils sont faits un peu de caoutchouc. C'est difficile à capter ça. Et de rendre ça, non pas sentimental, simplement mignon, comme un petit chaton, un chiot, mais de rendre ça simplement vrai, surtout dans les expressions. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à faire ça. Et dans les femmes qui tiennent les enfants, ils regardent les enfants avec les regards tendres, mais sans trop.
Elle était extrêmement patiente, Marie Cassatt, alors que c'était une personne plutôt rigide autrement, très patiente, et elle attendait l'attitude voulue. Et ce qu'elle recherchait beaucoup dans les enfants,
Yvette Baudry,
autant que je me souvienne d'après grand-mère, c'est les lignes. Ce sont les lignes qu'elle cherchait.
Les courbes,
le
les
dos, les épaules, un joli mouvement chez l'enfant. Alors, il fallait le tenir d'une certaine manière, très serré, plus près du cou. Et grand-mère devait le regarder de la manière correspondante, bien sûr.
Et ce texte, qu'est-ce que c'est ?
Ce texte, c'est une lettre qu'un historien qui est né au Ménil avait demandé à grand-mère pour lui préciser qui était exactement Marie Cassatt à l'époque. Alors il y a là, elle raconte ce qu'elle a vécu avec Marie Cassatt quand elle était ici. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'absolument authentique, ça, il n'y a pas de problème. Grand-mère l'a vécu et c'est elle-même qui l'a écrit. Après avoir pris, Monsieur Gagnage, après avoir pris connaissance de la lettre de Monsieur Bisset demandant certains renseignements en ce qui concerne Miss Cassatt, pour ma part, je vous dirais, elle avait la ferme conviction d'être de souche française. Alors sa famille se nommait Cossard et était originaire de Reims. Elle est d'ailleurs allée plusieurs fois à Reims et a fait faire des recherches dans les archives sans résultat. Mais elle a toujours été convaincue d'être descendante d'arrière-parents français et était toujours tentée de le découvrir. D'autre part, Miss Cassatt, loquace à 16 heures, aimait bien connaître les petits potins du clocher. Elle était plutôt distante et ne conversait guère avec les gens du pays. Elle faisait des promenades en voiture, elle conduisait suivant son cheval elle-même, quoique ayant un cocher. Elle avait antérieurement offert à la municipalité de fournir l'électricité à la commune au moyen d'une chute d'eau provenant d'un ancien petit moulin se trouvant au bout de sa propriété à la fin de son étang. La municipalité ayant refusé, elle s'est trouvée vexée et du coup, elle est restée neutre pour toute chose. Elle offrait chaque année à l'époque de Noël un arbre avec distribution d'un jouet aux élèves de l'école. Je n'ai pas d'autre souvenir de sa générosité. À la campagne, le gain mensuel était de 75 francs avec le repas de midi, travail, dimanche et fête. À Paris, 60 francs la pause durait de 8h30 le matin à midi et de 1h30 à 15h. La tenue était selon le tableau à exécuter, ou robe entière, ou corsage, des frocs qui venaient de chez La Ferrière et qui avaient été portées par des actrices. Elle travaillait d'arrache-pied, mais sa peinture. Elle sortait de peu et ne recevait guère. Tout ceci, je le relate, entre octobre 1902 et mars 1904. Voilà, la lettre de grand-mère. Mais quand même, Miss Cassatt avait ouvert une école maternelle et l'institutrice était payée par elle. Elle était quand même assez généreuse. C'était tout à fait privé, c'était elle qui finançait. Voilà à peu près l'histoire que je peux vous raconter.
L'originalité de cette série, d'un point de vue composition, justement, elle est peut-être là dans cette femme à la lampe. On pense aux compositions des Nabis.
Alors la femme à l'éventail, qu'on voit de dos, effectivement, préfigure complètement Bonnard et la lampe. Oui, ça c'est vraiment après Bonnard, complètement. Les teintes aussi sont... les gels liserés du papier peint, enfin tous les, la théière, tous les thèmes de l'art décoratif y sont retravaillés dans une composition déséquilibrée pour justement ne pas tomber dans la banalité ou le poncif. Donc là, on a une composition très travaillée avec la femme qui est vue de trois quarts, un peu en déséquilibre, et puis une sorte de fausse perspective qui entraîne les objets avec l'éventail. C'est aussi une composition qui pourrait être très inspirée des Japonais où traditionnellement toute la composition est déséquilibrée pour suggérer ce mouvement, ce monde fuyant. On pourrait croire que cette femme sous une lampe représente une valeur très, là aussi très stable, de tranquillité, qui serait une paix durable et sans accident. En revanche, le style dit exactement le contraire, puisque tout est tourmenté, le dossier de sa chaise. Les traits ne sont jamais finalement bien définis. Il y a des reprises partout. Tout bouge, tout vibre dans cette estampe qui représente une scène, au contraire, de tranquillité. Et c'est cette fragilité de l'instant qui donne toute la nouvelle valeur à une scène qui autrement serait d'une grande banalité.
Et là, cette image de la femme avec l'enfant à côté, dans une calèche, ça voit la partie derrière du cheval et aussi le dos d'un monsieur qui me semble là, c'est de dimension. Pourtant, les femmes et l'enfant, ils sont beaucoup plus vivantes. Mm-hmm. Mais Mary Cassatt, c'était une femme très attirée par les chevaux. Elle aimait beaucoup monter à cheval. Mais elle n'a pas quand même montré beaucoup de chevaux dans ses tableaux. Et pourtant, jusqu'à un accident en cheval, elle a eu, elle était une passionnée de cheval. Une Amazon. Mm-hmm.
C'est une calèche. On ne voit pas le cheval, on voit la croupe du cheval. Le cocher a cédé sa place à la sœur de l'artiste. C'est pour le moins, en tout cas, peut-être non pas le monde à l'envers, mais quelque chose d'inhabituel. On ne voit qu'une toute petite partie de l'attelage, puisqu'on voit le haut des roues. Et on a un sentiment de vitesse uniquement par la roue, par les rênes et par le paysage, un sous-bois probablement qui défile. Et aussi par une autre chose tout à fait étonnante, c'est la petite fille, cette nièce de Degas, qui n'a pas l'air très rassurée et qui a l'air un petit peu crispé de se s'arc-bouter pour être rassuré.
Je voulais vous montrer l'une des estampes qu'elle a faite ensuite, après la série des 10, Elle a continué à faire une autre série d'estampes en couleur, dont une dont la Bibliothèque nationale possède une très belle épreuve, monotypée, c'est-à-dire à la fois imprimée à l'encre d'imprimerie, mais ensuite rehaussée, dont le cuivre a été rehaussé par des couleurs posées à même la plaque, sans qu'il y ait eu de gravure. Là, c'est la scène du banjo. On voit une jeune femme qui joue du banjo avec une petite fille qui s'appuie sur son épaule. Alors là encore, le mouvement est encore beaucoup plus accentué par l'idée que la couleur elle-même n'adhère plus aux formes. Chez les Japonais, comme dans les premières estampes de Marie Cassatt qu'on a vues, même si le mouvement est toujours très, très marqué, chaque forme contient la couleur dans des aplats qui sont relativement bien déterminés. Et ça, ça peut apparaître comme un peu contradictoire avec l'esthétique impressionniste telle que je la définissais. Elle en est sortie par ce moyen qui est de rajouter sur le cuivre des touches de couleur au pinceau, puisqu'on voit très nettement là les traces de pinceau, ce qui fait que lorsqu'elle imprime sa plaque de couleur, sur la feuille vient non seulement l'encre d'imprimerie qui adhère à l'aquatinte et aux plages qui sont prédéterminées, mais il y a aussi des accidents, des griffures, des taches de couleurs qui viennent comme cela s'ajouter. Et un véritable relief on voit vraiment la matière de l'encre, alors que d'habitude, vous savez, le passage sous la presse en taille douce, c'est plusieurs tonnes. Donc l'encre est complètement aplatie et on a un film d'encre complètement uniforme sur la planche. Avec le monotype, en mettant de très gros paquets d'encre comme on met de la peinture avec une spatule, eh bien là, on obtient parfois des effets de matière. Alors là, on le voit très bien. Alors l'autre intérêt aussi de cette technique de la gravure avec monotype, c'est qu'aucune épreuve n'est semblable à la précédente, puisque l'encre que l'on met sur la plaque de cuivre n'est plus liée à la plage d'aquatinte, mais rajoutée par-dessus ou en dehors. Et qu'on a ainsi des épreuves qui peuvent varier de couleur. Alors c'est le cas de celle-ci. Là, malheureusement, nous ne voyons qu'une seule épreuve, donc on ne peut pas voir la différence. Mais à Baltimore, il y a une autre épreuve qui est complètement différente.
D'autres couleurs.
Oui, Toulouse-Lautrec s'est amusé à faire ça en lithographie aussi, avec des ancrages de différentes couleurs. La Loï Fuller en 10 ou 20 teintes différentes. C'était aussi une façon de montrer que rien n'est stable et d'échapper à l'idée que l'art pourrait révéler un monde figé.
Marie Stevenson Cassatt meurt au château de Beaufresne le 14 juin 1926. Malgré la pluie, les habitants de la région viennent en foule à son enterrement, y compris la fanfare du village voisin. La plupart des gens dans l'assistance se souviennent de Cassatt seulement comme d'une vieille dame aristocratique qui se promenait chaque jour dans un landaulet Renault que tout le monde connaissait. Une poignée de vieux amis arrivent à temps pour les funérailles et parmi eux Ambroise Vollard qui écrit « Au cimetière après les dernières prières, le pasteur, selon la coutume protestante, distribua aux assistants, pour les jeter sur la tombe, les roses et les œillets détachés des couronnes. Je me représentais Marie Cassatt devant ce tapis de fleurs, courant chercher une toile et des pinceaux. »
Non, j'aime bien ces pasteurs aussi. J'imagine, je préfère les gravures et les pastels. Elle avait une technique formidable. Dans les pastels, elle suivait les techniques de Degas. Ça veut dire qu'elle a fait beaucoup d'impasto avec le pastel. Elle a utilisé la vapeur pour fixer certaines parties plus profondément. Et il semble qu'ils ont tous les deux fait un une sorte de pâte, des crayons de pastel, et appliquer aussi avec la brosse. Donc, tous les deux, ils ont fait beaucoup d'expériments et beaucoup de travail. Il avait un esprit très, très ouvert envers les expériences différentes. Beaucoup plus que certains d'autres artistes, même plus que nous.
Et c'est ça la modernité de Marie Cassatt?
Oui, ça, elle a partagé cet esprit avec Degas. Mais aussi, son importance, c'est d'être la personne qui a vu ça tout de suite, qui a trouvé les gens intéressants et qui a fait découvrir aux personnes en position de collectionner les œuvres.
Oui, elle avait un goût très sûr, très jeune.
Oui, c'est ça. Elle avait l'œil.
Elle a compris la peinture contemporaine, enfin de son temps.
Oui, oui, et tout de suite.
Sans douter, oui. C'est ça qui est extraordinaire, oui. Mm-hmm.
Et c'était une femme entre les deux mondes. La femme libérée d'aujourd'hui et la femme de son classe, quand même un peu à part. Elle a dû quand même souffrir un petit peu parce qu'elle n'avait pas le choix entier. Elle était peut-être ni poisson ni poulet à son époque. Donc ça doit être quand même une vie assez seule dans un sens, d'être compris. Elle a dit qu'on en a vu les œuvres, par exemple des impressionnistes ou des futurs impressionnistes. Avec ça, elle a commencé vraiment à vivre. C'était sa vie. Elle a finalement compris qu'elle appartient là-bas. Et donc, je pense que cette partie de sa vie était de plus épanouie. Sa vie avec tout ce groupe d'hommes et femmes... Qui était en train de découvrir le monde, toute seule.
Marie Cassatt, 1843-1926, par Brigitte Masson. Avec Margaret Kiss, peintre, Michel Melot, auteur de l'estampe impressionniste chez Flammarion, Hugues Wilhelm, collectionneur, et Yvette Baudry. Description de tableaux de Marie Cassatt par Sonia Emmanuel et Christine Bruchère. Groupe de réalisation, Georges Arrigoni, Cyril Bécu, Isabelle Limousin, Claude Giovanetti.